Vous écoutez
RMC.
On parle évidemment de la victoire ce soir des Lensois 1-0 face à Nantes. Lens est en Ligue des Champions et Nantes tombe en Ligue 2. C'est un événement. Donc Nantes était au bord du précipice depuis plusieurs saisons. Et bien là, c'est un retour officiel en Ligue 2. On rappelle que les Nantais venaient de disputer 13 saisons en Ligue 1 et malheureusement, c'est retour en Ligue 2. Nous sommes avec Sébastien Piocelle, qui est un consultant RMC, mais qui est également un des visages du FC Nantes. Salut Seb, merci d'être avec nous. Tu as été Nantais de 96 en 2000 ans en tant que professionnel et tu avais terminé ta formation à la Genolière. Tu as connu les belles années du FC Nantes avec ce titre de champion de France en 2001. C'est le dernier titre d'ailleurs de champion de France des Nantais. Quel est ton sentiment ce soir de la tristesse, mais c'était un peu inéluctable?
Ouais, salut les amis.
Salut Seb.
Forcément, c'est une situation à laquelle on s'attendait hein, depuis un petit moment, donc quand il y a pas de projet, je parle même pas de projet de jeu, parce que là on peut pas changer d'entraîneur tous les 6 mois et avoir un projet de jeu, mais là je parle vraiment de projet club avec une vision, avec un organigramme bien précis, voilà. Donc à un moment donné, quand on travaille mal, on le paye. Donc oui, il y a de la tristesse, mais Il n'y a pas de surprise, ça devait arriver.
On sait qu'effectivement Nantes a été en difficulté hein, ces dernières années. Par exemple, lors de la saison 2022-2023, ils avaient terminé 16e. Ça avait été très compliqué. Lors de la saison 2000, la saison passée, ils ont terminé 13e. Donc voilà, il y a eu maintien vraiment à l'arrache. Lionel, oui, tu voulais
poser une petite question, mon Seb. Salut. Maintenant, moi, je suis à 300% avec toi, avec les Nantais, avec cette. On espère un nouveau projet parce que tout le monde dit, j'entends beaucoup là-bas, oui, mais on va redescendre, mais on va repartir avec un nouveau projet. Est-ce que tu penses, toi, qu'avec. C'est pas qu'un projet, c'est aussi une réorganisation dans l'organigramme. Moi, je pense qu'il y a deux pièces, je voudrais savoir si tu es d'accord avec ça, deux pièces très importantes qu'il va falloir garnir, notamment le directeur sportif et le coach. Ces deux-là doivent être main dans la main, bien évidemment avec Kita, ça c'est évident, qu'il prend, lui, il met son oseille, il prend ses responsabilités, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même une vision qui doit être un nouveau projet à court, moyen et long terme, avec deux personnes très importantes qui doivent être choisies maintenant.
Voilà, là tu viens de décrire, on va dire, le fonctionnement d'un club normal. Tu vois, t'as pas dit deux choses incroyables. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire là, ça n'a jamais existé en fait depuis que.
Déjà quand tu changes d'entraîneur tous les 6 mois.
Voilà, et encore une fois, je vais être de ceux. Tu sais, je suis pas nostalgique du jeu à la nantaise. Tout ça, à la rigueur, ça fait longtemps que ça existe plus.
Ça peut
et c'est
évoluer,
pas très grave.
Ouais.
Et complètement, le plus important, c'est vraiment d'avoir une vision globale où tu vas avoir une vision sportive avec ensuite un projet qui va être lié justement à l'entraîneur aux entraîneurs potentiellement, parce que dans tous les clubs on change d'entraîneur, c'est pas un problème, mais d'avoir des entraîneurs qui correspondent à une philosophie que tu as envie d'avoir et pas à chaque fois t'adapter à un nouvel entraîneur qui va arriver avec sa philosophie, parce que encore une fois, je veux pas taper sur
l'effectif
les coachs
d'un autre.
Parce que
ils
arrivent dans un bourbier. Ils arrivent dans un bourbier et il y a pas de vision sportive. Et c'est quand même incroyable puisqu'on est dans un club de foot. J'ai envie de dire quasiment un monument du football français. Et même si la famille Kita et surtout le père, c'est vrai, ils ont mis l'argent, il n'y a pas de souci. Quand on voit la difficulté des clubs aujourd'hui, voilà.
Mais est-ce que tu penses que ça peut changer? Qu'il y aura un nouveau projet parce que tu vas en Ligue 2? Est-ce que le nouveau projet tu pouvais pas le faire parce que t'étais aussi en Ligue 1 et tout ça? Moi le fait d'entendre on est en Ligue 2, on va pouvoir repartir de. Moi je pense pas que ce soit parce que t'es en Ligue 2 que tu vas repartir avec un vrai projet. Ça changera pas.
Ta réponse, Seb.
Il y a plusieurs solutions. En fait, soit Valdemar Kita décide de laisser le club. Donc de le vendre Et éventuellement, il y aura un nouveau projet avec. Et on ne sait jamais ce qu'on aura. Hein. Ça se trouve, ça sera pire. Hein. Enfin, j'ose pas trop imaginer. Mais imaginons qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils soient organisés comme un club normal, on va dire, avec un directeur sportif, un directeur du football, tu l'appelles comme tu veux, qui, lui, va choisir l'entraîneur et avec une vision sportive. Là, ça sera, on partira sur quelque chose de classique, mais il faudra toujours un peu de temps. Le problème, c'est que Kita, comme d'autres, hein, ils ont pas le temps, en fait. Ils n'ont pas le temps, ils laissent pas le temps. Ils font des choix et puis, deux mois après, si ça va pas, ils regardent même pas ce qui se construit, ils changent. Et à un moment donné, c'est pas parce que tu vas aller en Ligue 2. D'abord, c'est très dur de remonter. Parce que la Ligue 2, c'est une division qui est hyper homogène. On le voit, t'as des spécialistes qui font monter et descendre comme Metz. Mais on voit aussi qu'il y a des clubs qui, quand ils descendent, ils remettent 2, 3, 4 ans quand ils y arrivent. Donc c'est très dur. Mais oui, le plus important, c'est de définir une vision sportive avec des gens forts dans le club. Voilà, et qu'on arrête de changer tous les 4 matins d'orientation dès l'instant où on perd un match où ça va pas et c'était presque un miracle au vu des dernières saisons que ça arrive que maintenant. Mais c'est surtout pas ce que j'entends, c'est pas bien de descendre, hein, parce qu'il y en a qui disent voilà, on descend, ça va être
mieux. Seb, pardon, non, je te coupe parce qu'il y a Anthony Lopez, le gardien nantais qui est en zone mixte, qui se présente après la relégation nantaise. On l'écoute.
Oui, souvent on nous dit que voilà le maintien jouait pas aujourd'hui, ok, d'accord. C'est certainement ça, et je jouais certainement pas aujourd'hui, mais par contre on devait se laisser ce pouvoir, enfin cette chose en plus de dire ben ça peut peut-être aussi jouer la dernière journée. Sauf voilà, on fait le match qu'il faut, mais on doit être beaucoup mieux sur des choix, mais c'est comme ça.
Vous avez des situations, la frappe de Matisse, notamment sur le poteau, j'imagine que vous allez la regretter pendant
un moment. On va la regretter, mais c'est un ensemble de choses. Voilà, je pense que si la sortie du Euro, ça fait mal, mais ça fait partie du match, malheureusement. On a eu déjà deux alertes avant sur deux buts refusés. Enfin, je me trompe pas, sur deux buts refusés. Voilà, quand on arrive à avoir certaines situations. Dans notre situation, il faut savoir faire la différence.
Anthony Lopez, le capitaine du FC Nantes, réagit après la relégation du club.
C'est tout.
On a l'impression que ce match, c'est aussi à l'image un peu du dernier match. Vous êtes à chaque fois passé tout près et vous n'avez pas manqué de
chance. On écoute Anthony Lopez devant les journalistes.
Bien sûr, on part encore avec des regrets, pardon. Parce que comme je vous dis, ça fait déjà quelques temps qu'on fait les matchs qu'il faut. Sauf que voilà, il y a un moment donné où on pèse sur certaines décisions, certains choix. Mais voilà, ça fait partie de notre saison. Ça a été ça depuis le début. Maintenant, voilà, il faut juste tout simplement assumer ce qu'on a fait. Et puis voilà.
C'était donc Anthony Lopez. On rappelle qu'il avait rejoint le FC Nantes en décembre 2024. Le capitaine qui prend la parole après la relégation. Flo, peut-être une réaction aux propos. On sent qu'il en a gros sur la patate, non, sur l'action de Abline.
Sur l'action d'Abline, mais je pense que c'est un gagneur et il dit un truc que moi dont j'ai parlé avant le match. Il se trouve que sur cette fin de saison, ils sont bons, les Nantais. Dans ce match, ils ont été plutôt bons encore. Ils ont été bons à Rennes. Ils ont été bons contre Marseille. Ils sont bons à Lens. Et moi, je voulais en profiter à la fois pour rebondir sur ce que dit Anthony Lopez. En disant on a fait des mauvais choix, il était vraiment dans l'idée de s'en sortir. Et Seb Piocel qui est avec nous, Seb, tu penses aussi que même s'il y a on a évoqué tous les défauts dans l'organisation nantaise, dans le management, dans la gouvernance, on est d'accord. Et moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il n'y a pas grand chose, et comme disait Lionel, qui risque de changer à partir du moment où tu as ce problème de gouvernance, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais il y avait moyen avec cet effectif-là de s'en sortir. Je trouve que les derniers matchs étaient hyper encourageants.
Mais 100 fois. C'est pour ça que moi, analyser le match de ce soir où ils ont été plutôt intéressants, ils ont été mal payés, je trouve, que depuis que Vaïd est arrivé. Mais c'est vrai que quand tu regardes la qualité des joueurs, alors forcément, tu te dis pas que cette équipe-là doit être dans le top 10, mais en tout cas dans le jeu, dans la volonté, dans dans l'effectif qu'il y a avec certains joueurs d'expérience, oui, ils sont pas à leur place. Il y avait mieux à faire. Après, bon, chacun doit prendre ses responsabilités, les joueurs aussi, forcément, parce que quand tu es dans une équipe qui descend, forcément, ça te marque. Alors, il y en a qui vont rebondir, il y en a peut-être certains qui vont rester, il y en a qui vont rester à quai. Mais malheureusement, même s'il y a eu des changements d'entraîneur, même s'il y a eu des soubresauts tout le long de la saison, ça reste quand même les premiers acteurs. Et ce qu'ils ont montré là, c'est un peu à l'image de Ganago et Abil la semaine dernière contre l'OM. J'aurais aimé les voir jouer, aller ne serait-ce que un match sur deux ou même un match sur trois comme ça toute la saison. Et ça aurait suffi.
Alors c'est vrai, et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même tout, on en revient toujours aux dirigeants. Il est vrai que tu parlais de cap, tu parlais d'objectifs, tu parlais d'idées à mettre en place pour savoir, avant de savoir quel directeur sportif, comme disait Lionel, et quel entraîneur tu prends. Quand tu prends Luis Castro, tu prends quelqu'un qui construit sur la durée, avec possiblement plus de jeunes, donc plus de temps, puis tu t'aperçois en fait qu'au sein même de la direction, entre le père et le fils Kita, il n'y a pas d'accord sur l'objectif et sur la façon dont tu fais faire jouer ton équipe. Donc,
mais le souci, Flo, moi je pense, quand tu prends Luis Castro, vu le football qu'il préconise, il faut lui, et notamment en Ligue 1, c'est compliqué. C'est-à-dire le football qu'il fait en Ligue 2 à une certaine vitesse, avec un certain rythme, ça marche, mais en Ligue 1, il faut lui donner pour qu'il puisse qu'il puisse mettre en place ce qu'il a envie. Cet effectif-là, pour moi, n'était d'accord, absolument donc, pas construit pour construire donc, le jeu qu'il préconisait.
Donc on en revient toujours au fait que, parce que moi, les joueurs en question, je veux bien les incriminer, bien sûr, ils ont sans doute par moment pas été à la hauteur. Mais quand ton projet est aussi peu défini, que ton entraîneur est fragilisé très très vite en interne,
fragilisé dès le départ, parce que l'effectif n'est pas qu'il a en main. Pour moi, c'était Luis Castro, avec cet effectif là ne pouvait pas mettre en œuvre.
Donc les dirigeants n'ont pas bien fait leur travail.
Moi, on
écoute Sébastien Piocelle, notre invité.
Tout ce qu'on dit là, finalement, on se rejoint tous. On en revient à la gouvernance. Bien on sûr. Le voit dans d'autres clubs aujourd'hui, et notamment à l'OM, à Marseille, où j'habite. Et là, quelque part, c'est un club beaucoup plus exposé.
C'est pas le corbeau, toi.
Il y a Bastia demain. Je fais une utilité.
Ah, c'est dans un trio explosif, là, Seb.
Je suis pas bien. Non, mais pour les joueurs et peut-être même, alors je veux pas généraliser, mais peut-être la nouvelle génération, ils s'engouffrent rapidement, en fait.
Ah, bien sûr.
Et dès l'instant où c'est pas solide, dès l'instant où il y a une faille. C'est-à-dire que on remet en cause les choix de l'entraîneur très rapidement. On sent que l'entraîneur n'est pas légitime. On sent que le directeur sportif, il n'est pas en phase avec l'entraîneur. Les joueurs, ils s'engouffrent. Et ça fout le bordel. Et quelque part, dès l'instant ensuite où il n'y a pas de résultat, où ça commence à, voilà, où commence à avoir des tensions, ça fait que tu pars à chaque fois sur des saisons, excusez-moi du terme, de merde. Et comme à Nantes, c'est... c'est des spécialistes, hein. c'est la réalité, hein. Je sais pas combien, je crois que c'est 23 ou 24 entraîneurs depuis que c'est forcément ça aide pas non plus un effectif à performer. Et puis pour revenir sur Castro, moi je trouve bien sûr que c'est ce qu'il avait réalisé avec Dunkerque, c'était hyper intéressant. Quand tu prends cet entraîneur là, tu le prends pour ses qualités, tu le prends pour lui laisser du temps, tu le prends pour mettre en place un certain jeu. Mais comme tu l'as dit, Dio, il faut aussi être en adéquation dans le recrutement. Lui, on lui a laissé pas la main, parce que c'est pas forcément un entraîneur de recruter, mais en tout cas, est-ce qu'on lui a ramené les profils qu'il voulait à l'arrivée? Bon, il y a eu des changements avec Kantari, ça a servi à rien du tout, finalement.
Donc, il a eu 15 matchs, on rappelle.
Ils ont plus perdu du temps, finalement. Et j'en reviens encore une fois, et Diot est bien placé par rapport à ça, à Auxerre, où c'est le seul club, on va dire, de fin de tableau à ne pas avoir changé d'entraîneur, et c'est peut-être celui qui va s'en sortir.
Et on rappelle que c'était le cas aussi l'an dernier pour les Havrais avec Didier Digard qui l'avait maintenu. Il s'était maintenu en Ligue 1 et c'est encore le même scénario aujourd'hui avec le Havre qui est quasiment sauvé et qui n'a pas changé d'entraîneur même quand c'était difficile. Merci beaucoup. Sébastien, d'avoir été avec nous. On rappelle Sébastien Piocel, ancien Nantais, consultant RMC qui réagit donc à la descente de Nantes en Ligue 2. Et messieurs, une information importante, c'est Aurélien Tirsain, vous le savez, il a commenté le match pour RMC. Il était présent en conférence de presse. Vaïd est resté 15 secondes devant les journalistes. Ces mots, profond de tristesse, je ne suis plus capable de parler, on est triste, c'est très difficile, excusez-moi. C'est vrai que c'est touchant aussi parce que Coach Vaïd, on rappelle, c'est un homme âgé qui était à la retraite. Il a accepté le challenge proposé par l'Equita parce que c'est son club, parce qu'il a marqué le club comme joueur. Et comme tu l'as dit aussi, Flo, c'est vrai que finalement, cette tentative n'était pas absurde parce qu'il y a eu du mieux.
Il y a eu du mieux dans le jeu. Je te dis, il est victime, je vais te dire un truc, il est victime du calendrier. Je l'ai dit au début.
S'il était arrivé plus tôt, je pense que Nantes s'en serait sorti.
Lui, il a dit, effectivement, et je ne pense pas qu'il l'ait dit, tu vois, par fierté, par égoïsme, par orgueil.
Il s'en fout à son âge, il s'en fout complètement.
Je pense qu'il l'a dit parce qu'il a. Il a dû sentir en se disant mince, c'est con, on joue bien, on met des choses en place. Moi, j'ai été surpris.
Des choses simples,
terre à terre. C'est vrai que moi, je te dis, il se trouve que j'ai vu les quatre derniers matchs de Nantes. J'ai été surpris. J'étais à Rennes au stade pour voir Rennes-Nantes. J'ai été très surpris par la qualité du jeu nantais et les Rennais aussi, d'ailleurs, qui ne méritaient pas de gagner.
Les Marseillais aussi.
Marseillais était tellement dans la panade, c'est vrai. Mais dans plein de matchs où parfois ils ont des moments de souffrance, comme ce soir, ils résistent plutôt bien, ils défendent bien. Moi, j'ai trouvé Gilbert aujourd'hui dans les duels énorme.
Moi, j'ai adoré le penant qui avait été mis aux oubliettes, le penant au début.
Ouais. Tout à fait. Donc, si tu veux, effectivement, coach Vaïd, pour revenir à ce que tu disais, ça fait partie des idées que j'aurais pas trouvé génial au départ, mais qui finalement n'était pas si mauvaise. Mais il est victime d'un calendrier où il devait jouer à la fin. Marseille, Lens, Rennes.
Exactement.
C'est trop compliqué. C'est-à-dire que tu fais des bons matchs, comme à Rennes ou ce soir, et tu prends 0 point. Et honnêtement, sur ces deux matchs-là, s'ils avaient pris 2 points, franchement, il n'y avait rien à dire du tout.
Et on rappelle qu'évidemment, c'est la beauté, mais aussi la cruauté du football. On parle de Nantes qui tombe en Ligue 2, et dans le même temps, nous avons des images absolument magnifiques, parce que Lens célèbre son retour en Ligue des Champions. La fête est totale, les supporters sont évidemment encore présents à Bollard, et c'est un spectacle absolument magnifique, les garçons qui est proposé. On voit les hommes, les joueurs, avec leurs familles, avec leurs femmes, avec leurs enfants qui sont célébrés.
C'est un club familial et il le démontre. Et je pense que c'est l'objet, on va dire, de la communication un peu de cette fête. C'est qu'il y a feu d'artifice, il y a stade plein, il y a la célébration donc de le retour vers l'Europe et la Ligue des Champions. Et il a été décidé de faire rentrer d'abord le président. Il y a Joseph Hougourlian qui était là avec son épouse, Pierre Sage, le staff et tous les joueurs. Et tout le staff est arrivé avec tous les proches, les enfants et idem pour les joueurs. Et je trouve que l'idée du club familial est bien représentée effectivement dans ce show.
La fête est totale. On a vu un petit film également pour annoncer que Lens était de retour en Europe. Non, effectivement. Ils ont du budget quand même.
Je croyais que vous aviez changé de chaîne.
Non, mais c'était énorme.
Je te voyais me faire. Qu'est-ce qu'il me dit de regarder les Simpsons?
Je veux re-regarder ce truc parce qu'apparemment, il y a les joueurs qui sont. Et tout. Mais attends, est-ce que c'est Matt Groening maintenant avec l'IA? Tu fais ce que tu veux.
Non, mais en tout cas, ils sont bons en com. Ils sont bons sur le terrain, mais ils sont bons également pour habiller tout ça et pour célébrer les moments importants de la vie d'un club. Et donc, ce soir, les Lensois sont fêtés par leurs supporters.
Je vais demander au président, je vais lui envoyer un message pour lui demander combien ça coûte.
Président Gourlian,
Ou alors à
Jean-Louis Léga,
à Benjamin Parot.
Parce qu'ils font attention aux dépenses, mais en tout cas ce soir, effectivement, c'est la fête. Tous les joueurs, un à un, qui sont appelés, qui sont célébrés. On a vu également Saïd, on l'a dit, on sait qu'il a déjà qu'il a déjà signé ailleurs et qui a été acclamé avec sa famille, qui a été célébré par son entraîneur Pierre Sage et également par le président. Donc tout le monde est en totale communion. On va revenir à l'actualité, on l'a dit, ce sont des émotions complètement contraires. On a la joie des Lensois, on a également la tristesse des Nantais. Nous sommes avec Clément, supporter nantais au 32-16 sur RMC, qui veut évidemment réagir à la relégation de son club. Bonsoir Clément.
Bonsoir
Clément.
Clément, on imagine que tu es extrêmement triste et dans le même temps, quoi. Tu t'y attendais? Tu savais que ça allait vous tomber dessus à un moment ou à un autre?
Alors, si vous pouviez me laisser, tenir mon propos sur une durée assez longue, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire.
Écoute, on n'a pas toute la nuit, on est en direct jusqu'à minuit, donc fais-nous une petite synthèse, peut-être.
Je vais essayer d'être synthétique
voilà. Le
plus possible. En fait, je pensais être devenu indifférent, parce que, en fait, ça fait un moment que je ne vis plus mon club que par le sarcasme et l'ironie de par ce qui nous est proposé par la direction et son propriétaire. Mais au final, en fait, avec la descente actée ce soir, qui était devenue inéluctable, puisque, en fait, c'était déjà un miracle qu'on ne soit pas descendu sur les 4 dernières saisons, ce soir, je dirais que le mot colère, pour qualifier le sentiment qui m'habite envers le propriétaire de ce qui était mon club, n'est pas assez fort. Puisque, en fait, on se demande pourquoi il est là, hormis pour satisfaire sa mégalomanie. Le sportif n'a jamais été sa priorité. Il est là pour l'image, pour je ne sais quoi. Il voulait faire du foncier avec le stade, ça n'a pas pu aboutir parce que il a des casseroles ailleurs. Enfin bon, voilà quoi. Ça fait 20 ans que les supporters du FC Nantes se sont fait confisquer leur passion par une personne qui pour moi est un cancer pour le football.
Alors Clément, tes propos sont très forts. On rappelle
quand même, hein,
qu'il y a 19 ans que Valdemar Quita a racheté le club. On comprend ton désarroi, mais dans le même temps, et je ne dis pas que c'est bien, mais il y a eu des escrocs dans le foot, on l'a
exactement.
Vu. On a des clubs qui d'ailleurs sont tombés en ruine, mais les Mansots également. Le Mans est tombé, Bordeaux est tombé, il n'a jamais... Attends, juste je finis et tu me réponds Clément, parce qu'on parle en même temps, ça va pas. Et en tout cas, financièrement, il a jamais manqué à ses engagements. Les salariés sont payés et il assure le côté financier, même si je comprends que tu sois très déçu et très en colère du fonctionnement du club, mais au niveau financier, il est quand même présent.
Sous prétexte donc que c'est son argent, il a le droit de faire n'importe quoi avec un club. Mais ça serait pareil pour si un président faisait la même chose avec un autre club. Sous prétexte que c'est son argent, il a le droit de faire n'importe quoi avec un club qui est un patrimoine collectif, quel que soit le club. C'est pareil à Bordeaux, ça serait pareil à Lille, ça serait pareil à Lyon. Donc en fait, j'ai un petit peu du mal avec cet argument, surtout qu'en plus, l'argent qu'il a mis, entre guillemets, a souvent été mis pour compenser les absurdités, les énormités qu'il a fait en surpayant des joueurs médiocres avec des commissions d'argent pas possibles, enfin avec des indemnités de licenciement aux entraîneurs qui passent à l'appel. Enfin, au bout d'un moment, il faudrait être lucide sur le bilan sportif de Valdemar Quita au FC Nantes, quoi.
Et Clément, quand oui. Il y a quelques jours, on le rappelle, hein, il y avait une interview passionnante et très longue qui a été donnée à nos confrères d'Eurosport. Il dit, moi, je suis prêt à avoir des gens qui mettent de l'argent dans club, donc c'est-à-dire à ouvrir le capital, mais la réalité c'est qu'il n'y en a pas. Ça, tu l'entends ou pour toi, c'est pas réel?
A refusé il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus, une offre de 80 millions d'euros pour le FC Nantes. Valdemar Quita n'attend qu'une seule chose, c'est que le futur repreneur, entre guillemets, du club éponge la somme qu'il a, entre guillemets, investie dans le club, plus faire une plus-value. Il n'attend que ça, que quelqu'un éponge l'argent qu'il a mis pour réparer ses conneries, plus faire une plus-value pour vendre le club. Il veut 200 millions d'euros pour le FC Nantes.
Ce qui paraît complètement impensable. Qui va mettre 200 millions pour le FC Nantes
millions. Alors, il faut savoir que l'argent qu'il met, hein, alors, c'est sa holding qui est propriétaire du club. Et donc, enfin, je vais essayer d'être... Je ne veux pas faire de cours d'économie et puis je ne suis pas assez féru dans la discipline. Mais en fait, il prête l'argent au FC Nantes. L'argent qu'il met dans le FC Nantes est soumis à une clause de retour à meilleure fortune.
Et cette clause de retour à meilleure fortune, elle est basée sur quel montant?
C'est-à-dire que l'argent qu'il prête au FC Nantes, quand la situation financière du club est censée s'améliorer, donc sur les ventes de joueurs,
est censé se récupérer,
effectivement. Une partie de la somme. Fait. En fait, il prête de l'argent, Valdemar Quita prête de l'argent au FC Nantes.
Néanmoins, tu sais, moi je vais critiquer suffisamment, et tout à l'heure on a commencé par ça, on est tous d'accord pour dire que, effectivement, cette succession d'entraîneurs, cette absence de cap, d'objectifs sportifs, ça a détruit effectivement le modèle nantais. on est d'accord sur le côté sportif. Il se trouve que financièrement, quelle que soit la façon dont tu fonctionnes et quelle que soit ça, enfin, même si c'est sa holding, le club est relativement solide financièrement.
Il se barre pas avec des dettes, non, en te laissant comme Bordeaux où il y avait
mais après effectivement, la vérité c'est que évidemment que ces présidents là, ils souhaitent vendre et ils souhaitent vendre.
Ouais, mais comment tu fais pour vendre Flo? Comment tu fais pour vendre? C'est-à-dire que lui, alors soit il veut vendre à 200 millions, il les aura pas. Donc ça veut dire qu'il veut, comme disait notre auditeur, il veut peut-être quelqu'un qui vient s'associer avec lui, qui vient mettre de l'argent. Mais qui va s'associer avec lui, sachant qu'à chaque fois il va te mettre le bordel comme il le met maintenant. Moi je mets pas mon argent et lui va gérer le pseudo sportif comme il a
la
fait.
Solution.
Tu dis il va perdre mon argent, c'est la
multipropriété. Il y aura plus un propriétaire. De toute façon, ça attend à disparaître.
Avec lui, ça me paraît compliqué.
Enfin, oui ou non.
Sa manière de gérer, ou alors il va falloir qu'il change du tout au tout.
La multipropriété aujourd'hui, c'est 18 clubs sur les 36 en Ligue 1, en Ligue 2. Hein, même pour certains dont on le sait à peine. Donc, t'as raison, ça peut être ça. Mais ce qu'il y a le plus à craindre dans ces situations-là, bon, moi j'ai vécu à mon niveau avec Tours très récemment, t'avais un propriétaire qui a mis de l'argent. Donc au début, faut reconnaître, un peu comme là, qui a sauvé le club, qui a mis de l'argent. On savait exactement combien il a mis. C'est pas les mêmes sommes que Kita, parce que c'était un niveau inférieur. Et qu'à un moment donné, ben, on peut le comprendre, hein, il a fait plein d'erreurs, plein de bêtises, comme les Kita, exactement le même schéma. Et il a voulu récupérer son argent. Il a dit, moi, je veux bien que le club soit repris, mais je veux récupérer ce que j'ai mis. Évidemment, c'était totalement impossible. Et donc, à un moment donné, malheureusement, je leur souhaite pas, mais nous, pour la petite histoire, le club est mort. Bon, après, Nantes est sans doute beaucoup plus solide. T'es en Ligue 2, t'es pro, t'as quand même moyen aussi de faire un tout petit peu de trading pour t'en sortir. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est ça qui est terrible. Je disais que c'est un gâchis sportif de voir Nantes descendre, parce qu'ils avaient, même avec cet effectif-là, et même avec cette saison bizarre, et même en changeant de coach, le moyen de s'en sortir et d'être en Ligue 1, parce qu'ils ont montré des grosses qualités sur leur dernier match. Mais le problème, c'est que tu pars en Ligue 2 avec les mêmes problèmes d'organisation que tu avais en Ligue 1. C'est et là, tu sais pas exactement comment ça peut se passer. Après, il reste un truc que disait tout à l'heure Aurélien Tiercin, il avait raison. Tu es Nantes, tu as 8 titres de champion de France, tu n'es pas n'importe qui. Et donc, les joueurs, après c'était une autre catégorie de joueurs, hein, mais peuvent être attirés par le projet. Tu peux construire quelque chose.
En Ligue 2.
Pourtant, il a toujours bien payé en plus les joueurs. Valdemar Kita, pour le coup, même en Ligue 2, il y avait des joueurs qui étaient dimensionnés parfois limite pour la Ligue 1, et ça a toujours été un des plus gros budgets de Ligue 2 quand ils étaient en Ligue 2. Merci Clément d'avoir été avec nous au 32-16. Nous sommes avec Alexandre, également supporter des Canaries. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Alexandre.
Mais nous ça va, toi un petit peu moins j'imagine.
Moi aussi, je suis malheureux ce soir. Mais bon, c'est une fatalité. Tout ce qui se passe depuis plusieurs années, voilà, c'est un résultat de beaucoup d'échecs de choix, de présidence, de mauvaise présidence. Ce que vous disiez en début d'émission sur le fait qu'il fallait nommer un directeur sportif, en fait la réalité elle est là. On a mis Franck Kita à la tête du club qui sait pas ce que c'est le football. Son père ne sait pas ce que c'est le football. Il connaît l'économie, il connaît l'argent, il n'y a pas de souci. Mais son fils fait connerie sur connerie depuis 4 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal problème du FC Nantes, c'est qu'on n'est pas directeur sportif et qu'on est aujourd'hui un très 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 mauvais directeur sportif.
Moi, c'est mon avis.
Qui est Franck Kita. Je pense que l'erreur principale vient de là. On voit le travail de Vahid, on peut dire ce qu'on veut sur le coach Vahid, mais à son âge, ce qu'il fait, je pense que beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 seraient contents d'avoir un coach comme ça. Pour un an et demi, pour un projet de 2 ans. On a été dur, nous, supporter un Nantes envers Cambori, ce qu'il nous a apporté, parce que ce qu'il nous a proposé comme jeu l'année dernière était pas beau, et j'étais le premier à râler sur ce que l'équipe proposait, mais quand on voit aujourd'hui ce que fait coach Cambori avec le Paris FC, bah, c'est beau. Et finalement, peut-être que nous aussi, supporters, on s'est un peu embourgeoisé après un titre de Coupe de France. Mais je pense que quand on voit un petit peu comment le club est gangréné de l'intérieur avec ce qui sort dans la presse depuis plusieurs semaines.
Alexandre, je te coupe, tu restes avec nous, mais ouais. Johan Le Penant, le Nantais, est en zone mixte, on l'écoute.
Ah bon, on l'écoute.
À tout donner, surtout depuis que le coach Vahid est là, pas beaucoup de matchs à part par Metz ou Strasbourg aussi. Voilà, je pense qu'on a montré le bon visage, mais bon, ça n'a pas suffi et ce soir, on descend.
J'imagine qu'il y a l'action de Mathis.
Johan Le Penant qui parle du visage positif montré depuis le retour de coach Vahid.
Je n'ai pas revu en image. Après Mathis, il a fait son choix de tirer. Voilà, on lui saute tous dessus. Il a fait son choix. Bah, c'est vrai que je n'ai pas revu les images. Je suis assez loin de l'action.
S'il a fait ce choix, c'est qu'il pouvait marquer. Après, j'ai pas vu s'il pouvait faire la passe à Ghana. Mais oui, forcément, il y a plein d'actions qui vont nous monter de toute façon. Même les actions défensives où on prend le but sur une touche, voilà, on n'est pas concentré, c'est pas normal. Forcément, c'est frustrant. Mais bon, voilà.
On n'ose même pas beaucoup.
Joël Le Penant qui parle de l'occasion d'Abline qui finit sur le poteau.
Dans le combat, dans l'organisation.
Ouais, comme j'ai dit, c'est plusieurs matchs qu'on y est. J'ai l'impression que tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et encore ce soir, on était dans le match. On s'est procuré pas mal d'occasions. On a subi, surtout en deuxième, un peu sur la fin. Mais sinon, dans le match, on y est. Et malheureusement, ça ne sourit pas.
Ça ne nous sourit pas, on y est effectivement. C'est vrai que le contenu était intéressant ce soir. On est toujours avec Alexandre, un supporter nantais. Alexandre, c'est vrai que c'est terrible parce que là, on a le jeune Le Penant qui est devant les journalistes, qui se confie. Il a eu une occasion magnifique, sa reprise sans contrôle, elle est superbe. Elle est, bon, malheureusement pour vous, magnifiquement bien sortie par le gardien adverse.
C'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard. Fallait le faire plus.
C'est pas ce soir.
C'est pas ce soir qu'il fallait se réveiller, c'est pas ce qui se passe depuis 15 jours ou 3 semaines qu'il fallait se réveiller.
Non, c'est clair, mais pour revenir juste au match de soir, c'est vrai que comme depuis quelques matchs, on l'a dit, sur les grosses équipes, ils ont partagé les tirs avec Lens, ils ont les occasions effectivement pour le mettre. L'occasion de Le Penant, il peut pas faire mieux, Le Penant. C'est vraiment le gardien qui derrière lui sort le ballon. Après, c'est vrai que l'action d'Abline, pour le coup, pour revenir juste sur ce point, elle est intéressante. C'est vrai que la passe, elle est préférable à sa frappe. Bien sûr qu'il peut la mettre, mais c'est vrai que Ganago est dans l'axe. Ganago est assez sympa d'ailleurs à la fin de l'action parce que
il applaudit.
Oui,
il est sympa.
Comme s'il n'avait pas voulu le ballon, c'est bizarre. Mais derrière, on a la même de l'autre côté. Si je sais pas si t'as vu, Aguilar, il n'a pas applaudi. C'est le petit Bermond
qui n'a pas fait la passe pour le 2-0.
C'est pareil. Il doit faire la passe à ce moment-là, c'est évident. Donc bon, peu importe parce que le maintien se joue pas là, c'est évident.
Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça, Flo, que je dis, c'est pas ce soir que ça se joue, parce que la même action, la même prise de décision d'Abline, dans un moment où ça va bien, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés, les Nantais, tout se passe bien, le poteau, il est rentrant. La vision, ou alors peut-être il la donne, parce qu'il a pas la même pression, il a pas tout ça. Ce soir, il y a eu trop de choses avant. Pour en vouloir, enfin nous on n'en veut pas parce qu'on le sait, on l'a analysé comme ça. Moi je trouve les questions stupides ce soir. C'est ah oui Abline, t'as pas, c'est Abline le tournant, c'est si c'est ça. Non, c'est pas là le tournant, il était bien avant. C'est pas ce soir parce que et comment, il y a eu des occasions contre toi aujourd'hui, les Nantais, le 1-0 quand ça va bien, honnêtement ils le prennent pas, ils reviennent avec un 1-0 pour eux ou un 0-0, mais c'est avant que ça s'est joué, bien avant.
C'est clair.
Alexandre, le mot de la fin pour toi ?
Il faut faire sauter Franck Kita.
Ah, c'est clair.
Voilà. Bon, écoute, on suivra évidemment l'actualité
du
FC Nantes. C'est une
belle partie du projet déjà, c'est vrai.
Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. On vous rappelle l'information de la soirée. Nantes qui retombe en Ligue 2 après 13 saisons en Ligue 1. Les Nantais sont officiellement relégués, 20 défaites en 33 journées de Ligue 1. Et dans le même temps, évidemment, bravo aux Lensois qui ont battu donc les Nantais 1-0 et qui sont officiellement de retour en Ligue des Champions. La fête est totale à Bollard.